Sophie Durocher.
Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
Alors, on va rejoindre tout de suite Isabelle Huot, docteur en nutrition, parce qu'elle va nous parler. Alors, un mot, tu vas m'apprendre un nouveau mot aujourd'hui. Oui. Isabelle, l'hyperphagie. Là, j'avoue que tu me perds. Ben, tu me perds. Je suis jamais perdue avec toi. Parce que tu vas toujours réussir à me ramener comme ça, là. Alors, c'est quoi?
C'est quoi? C'est un trouble de comportement alimentaire, Sophie, un peu comme l'anorexie, la boulimie. Dans le cas de l'hyperphagie, ben à ce moment-là, c'est la consommation d'une grande quantité d'aliments dans un court laps de temps. Donc, ce qu'on appelle des crises de compulsion alimentaire, genre je mange un sac de biscuits au complet, après ça, je peux manger un sac de chips au complet, puis après ça, je m'en vais peut-être dans 2 litres de crème glacée. Donc, c'est démesuré comme quantité d'aliments ingérés, puis après ça, il y a un fort sentiment de culpabilité et il n'y a pas de conduite d'expulsion dans le sens où on va pas vomir comme une personne boulimique va le faire, ou on va pas aller faire de l'activité physique à outrance pour dépenser les calories qu'on vient d'ingurgiter. Fait qu'évidemment, ça amène un gain de poids et quand c'est fréquent, donc quand ça arrive plus qu'une fois par semaine, depuis 3 mois, ben c'est suffisant pour avoir un critère d'hyperphagie boulimique.
D'accord. Mais c'est important, donc, la façon dont on différencie ça de la boulimie, c'est qu'il n'y a pas, on se fait pas vomir, il n'y a pas tout ça. Mais dans la mesure où c'est un trouble alimentaire, c'est le sentiment de culpabilité. Donc, on imagine très bien quelqu'un qui a en effet mangé tous les aliments dont tu viens de nous parler, qui se sent hyper coupable d'avoir fait ça. Et la personne qui se sent coupable, elle fait quoi? C'est quoi son comportement après?
Bon. Et justement, dans les critères diagnostiques, faut rencontrer au moins 3 des 5 critères suivants. Donc, manger beaucoup plus rapidement que d'habitude, souvent sur le coin du comptoir, souvent en cachette également. Manger jusqu'à être très inconfortable, évidemment, c'est une grande quantité, parfois des nausées, un haut le cœur. Après ça, manger sans ressentir de faim physique. Les déclencheurs, c'est souvent les émotions, Sophie. C'est souvent, je vis quelque chose, j'ai de la difficulté à gérer mes émotions et je trouve réconfort dans les aliments. Manger seul à cause de la honte, moi, ça a été ma spécialité en clinique pendant 30 ans, Sophie, puis j'ai vu tellement de gens manger dans l'auto, en cachette, puis d'arriver à la maison, puis de prendre la petite salade avec le petit poisson grillé, puis les personnes à la maison, la famille, ne peuvent que constater à quel point il y a quand même une détresse psychologique.
Bien sûr.
Le poids qui monte rapidement parce que quand tu manges 2000 calories de trop, parfois ça peut aller jusqu'à 5-6 000 calories. Évidemment, le poids, c'est sujet au yo-yo.
Ouais. Ce que j'entends dans ce que tu me décris, c'est beaucoup de détresse, beaucoup de tristesse. Sont des gens, j'imagine, hommes et femmes, qui sont vraiment pas bien dans leur peau. Plus de femmes que d'hommes, plus d'hommes que de femmes?
Oui, ben en fait, un petit peu plus de femmes, mais contrairement aux autres troubles de comportement alimentaire comme l'orthorexie, l'anorexie, ça va toucher un petit peu plus d'hommes parce que dans les autres, l'anorexie, la boulimie, on sait que ça touche davantage les femmes. On dit, 2,5 à 3,5 % de la population, mais dans les faits, c'est sous-diagnostiqué.
Sous-diagnostiqué.
Parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent en silence. Puis j'ai envie de dire cette année, quand je voyais les statistiques que 60% des Québécois voulaient perdre du poids, j'ai envie de dire, si vous faites du yo-yo depuis des années avec votre poids, peut-être que la relation avec les aliments, elle est problématique. Puis peut-être qu'il y a un trouble d'hyperphagie, peut-être qu'il y a des compulsions alimentaires. Puis la première étape, c'est vraiment d'en parler. Puis étant donné qu'il y a beaucoup de honte autour de ça, j'ai vu pendant des années en clinique des clients, des clientes qui n'osaient même pas le dire à leur conjoint.
Wow! Alors que ça devrait être la personne la plus proche. Puis surtout, au-delà de la proximité, c'est la personne qui t'accepte comme t'es. Donc, si tu n'es pas capable de le dire à ton conjoint, ça veut dire que tu n'as même pas confiance que ton conjoint ou ta conjointe va t'accepter comme tu es. Il y a en effet beaucoup de tristesse. Tu disais, le déclencheur, c'est quand on se sent pas bien ou enfin, on va chercher du réconfort dans la nourriture. C'est drôle parce que j'ai l'impression, avec ce que tu me décris, que c'est peut-être, est-ce que c'est possible que des fois ce soit aussi pour se punir? C'est une forme d'auto-punition,
oui.
Peut-être?
Ben, il y a ça aussi. En fait, il y a plusieurs déclencheurs. Ça peut être une restriction calorique. Par exemple, quelqu'un qui dit, bon, ben là, je veux vraiment être au régime, je mangerai pas de la journée. Donc, on arrive le soir.
Ben là
on veut manger un craquelin, puis on...
Ben c'est oui.
Ça, on se goinfre, puis ça, c'est un déclencheur, la faim réelle. Il y a la restriction aussi envers certains aliments. Genre, jamais je vais manger de poutine, jamais de chocolat. Ces aliments-là sont tellement interdits. Ils vont faire en sorte que je gagne du poids, donc je dois absolument les éliminer de mon alimentation. Fait que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là si je prends un morceau de chocolat? Il y a tellement de culpabilité, il y a tellement de pensées automatiques qui sont négatives. J'ai mangé un chocolat, je vais engraisser. Je suis pas bon, je suis pas bonne. L'estime de soi en prend un coup encore une fois. Donc ça, c'est vraiment des pensées négatives. Puis dans les thérapies, ben c'est restructurer ces pensées-là. Puis tu parles de punition aussi. Mm-hmm. C'est faire preuve de bienveillance envers soi.
Ben oui,
ça peut faire la différence.
Mais c'est aussi, il y a comme toute une rééducation à faire parce que à la base, manger, c'est deux choses qu'on oublie. C'est un besoin puis c'est un plaisir.
Ouais.
Mais si tu manges au-delà de tes besoins, ben t'as dénaturé ta relation avec la nourriture. Et si tu n'éprouves pas de plaisir à manger, que c'est juste des interdictions ou de la gloutonnerie, ben là aussi t'es pas dans une relation saine avec la nourriture. C'est facile de dire là, je suis loin d'être parfaite. Il y a une couple de boîtes d'Oreo qui pourrait venir témoigner ici puis dire ben votre honneur, Madame Durocher, elle nous a fait passer toute une illala, hein? Moi, j'ai déjà eu ma passe Oreo, monsieur, madame. Là, c'était pas beau à voir.
Donc, c'est vrai que c'est bon.
Je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite.
Mm-hmm.
Mais je sais.
On n'est pas parfaite personne.
Non, mais je peux dire que quand j'avais ma passe Oreo, là, que j'étais incapable de quand je commençais une boîte, que j'étais incapable de ne pas la finir. Et même dans une tempête de neige, j'ai pris l'auto puis je suis allée au dépanneur en acheter une deuxième boîte.
Oui.
Mais c'était une période où j'étais pas bien dans ma peau. C'est pas possible.
Oui,
ça,
j'ai vu
pas être
ça
bien.
Tellement souvent.
Oui.
Oui, oui, parce que souvent, c'est ça, c'est que dans une composition alimentaire, des fois, ça finit plus, puis après, la boîte d'Oreo, ben là, on veut autre chose. Puis si on n'a rien à la maison, ben on est prêt carrément à prendre la voiture ou même prendre le bus pour aller au dépanneur chercher. Puis c'est souvent des aliments riches en gras et en sucre, les déclencheurs, puis c'est pas pour rien, parce qu'on dit que le sucre, c'est comme une drogue, ça active des zones au cerveau de plaisir. Puis en quelque part, on se fait du bien comme ça, mais très temporaire, parce qu'après ça, la culpabilité embarque. Donc, c'est pour ça que le soutien, ben déjà le dire à quelqu'un, déjà juste le dire, c'est comme une montagne sur les épaules. Puis après ça, ben il y a des traitements pour ça aussi qui ont fait leur preuve. Oui. Ben premièrement, nutritionniste spécialisé qui va remettre une routine alimentaire, essayer de retrouver le plaisir que tu mentionnes. Donc manger, ça peut être agréable, puis de manger du chocolat en pleine conscience et non pas par culpabilité debout, c'est une expérience qui est totalement différente. Et en psychologie, il y a également la thérapie cognitivo-comportementale qui est dans le concret, dans le quotidien, de travailler des pensées alternatives. Je mange ça, je me sens coupable, j'ai des pensées négatives envers moi, mais tout de suite, on développe le réflexe d'avoir une pensée alternative qui est positive. J'ai mangé un Oreo, c'était bon, ça m'a rappelé mon enfance. Mon Dieu, qu'on avait du fun plus jeune à manger un Oreo.
J'adore ça. OK, ben écoute, je vais être obligée d'interrompre la chronique parce que là, il faut que je m'en aille au dépanneur. Il y a une boîte d'Oreo, puis ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Maintenant que tu m'as dit que j'avais juste à l'associer à quelque chose de positif, je m'en vais tout de suite. Non, on rigole, mais ce sont des questions extrêmement sérieuses et je trouve que c'est important d'avoir cette discussion-là. Et en effet, tout part de là, en parler, et surtout pour les gens qui entendent ça, de l'accepter et de pas être dans le jugement, s'il vous plaît. Super important. Toujours des bons conseils. Merci beaucoup, ma belle Isabelle.
Merci, Sophie. À bientôt.
À la semaine prochaine.